On commence avec une étude parue hier dans PNAS. Les Australopithèques d'Afrique du Sud sont beaucoup plus vieux que nous ne le pensions.
Il y a Lucie, la célèbre Australopithecus afarensis d'Afrique de l'Est, est mise à jour par Yves Coppens qui nous a quittés la semaine dernière. Et il y a Australopithecus africanus d'Afrique du Sud, découvert dans la grotte Sterkfontein, un site qui a livré près de 500 restes d'Australopithèques, la plus riche formation au monde. En 2006, une équipe internationale a redaté Littlefoot, un fossile quasiment complet, et a prouvé qu'il était 1,5 million d'années plus vieux que ce qui était admis. Cette même équipe a repris l'étude stratigraphique de cette grotte. Elle s'est intéressée à Mrs. Pless, Madame Pless, et là encore, les datations n'étaient pas les bonnes. Mrs. Pless a été datée à 3,4 millions d'années, et non pas à 2,6 millions d'années, ce qui signifie qu'elle est plus âgée que Lucie, datée à 3,2 millions d'années, et nous avons donc deux espèces parallèles et concomitantes entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, ce qui prouve qu'en Afrique, deux zones peuvent être considérées comme des berceaux de l'humanité. Laurent Bruxelles est géoarchéologue au CNRS et le co-signataire de cette étude.
Mon travail a été de reprendre l'étude stratigraphique des dépôts de la grotte, c'est-à-dire la succession des couches qu'il y a. Donc on est dans une ancienne grotte dans laquelle des sédiments, donc des cailloux, de la terre, mais aussi des os sont tombés. Et à la manière d'un sablier, peu à peu, la grotte s'est remplie. Et donc, il faut remettre un petit peu dans l'ordre toutes les couches. Et mon travail était de comprendre pourquoi les dernières études qui avaient été menées sur ces premières datations, sur ces régions-là, avaient donné des dates un petit peu plus récentes que ce qu'on pouvait attendre. Et donc, en fait, dès 2006, j'avais pu montrer, par exemple, en étudiant justement par une approche naturaliste, la succession des couches, que les éléments qu'ils avaient utilisés pour dater étaient venus un peu plus tard dans ces dépôts. Donc, il y avait des formations intrusives plus récentes. Et malheureusement, les dateurs qui avaient étudié ce site avaient utiliser ces éléments pour donner un âge et pas l'ensemble des couches comme nous on l'a fait. Les dates initiales pour ces brèches, ces dépôts de grottes qui emballent les ossements comme Mrs. Pless et les autres Australopithèques variaient de 2,1 millions d'années à 2,6 millions d'années. Mais comme ils avaient daté finalement des dépôts qui étaient plus récents, qui étaient intrusifs, nous reprenant les autres dépôts et les ossements associés, on passe maintenant à une date à 3,4 millions d'années. Et ça c'est fantastique parce que finalement, même si c'est effectivement un scoop, puisqu'on vieillit ces dépôts d'un million d'années, eh bien, on remet tout ça finalement en cohérence avec l'histoire du site, avec l'ancienneté de Littlefoot en dessous, et avec l'histoire des Australopithèques en Afrique en général. Eh bien, grâce à la datation Littlefoot, et puis maintenant en plus avec celle-ci, on montre qu'effectivement, on a deux zones en Afrique, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, qui peuvent être considérées comme des berceaux de l'humanité. Et maintenant qu'on a une évolution parallèle, même si on a 4000 kilomètres de distance, on peut tout simplement évoquer et même voir confirmer qu'on a un seul et même berceau de l'humanité qui est tout le continent africain. Et ça, ça devient très intéressant puisque maintenant, ça ouvre des perspectives pour aller chercher des fossiles ailleurs. On n'est plus en train de se battre si c'est à droite ou à gauche. On sait qu'il y a un petit peu partout. Et donc maintenant, notre travail de géologue, c'est aussi d'aller identifier des nouveaux berceaux de l'humanité qui ne sont pas connus. Et là, actuellement, on travaille beaucoup, par exemple, au Botswana. On a des grottes qui ressemblent beaucoup, avec beaucoup de fossiles. Et c'est pas impossible qu'on ait là bientôt un nouveau morceau du berceau de l'humanité.
Voilà, et faut-il vous le répéter encore, vous pouvez retrouver toutes les études du Journal des Sciences ainsi que plein de liens que nous allons vous poster tout au long de cette émission sur notre fil Twitter grâce à Noémie Naguet de Saint-Vulfranc. C'est sur le compte @laméthodefc et sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Astrobiology, pour trouver d'anciennes traces de vie sur Mars, il va falloir aller les chercher très en profondeur.
Oui, c'est l'inquiétude des chercheurs de la NASA. Pour savoir s'il y a eu de la vie sur Mars, nous sommes à la recherche d'acides aminés, des éléments constitutifs de la vie tels que nous la connaissons. Et ce sont les missions des rovers Curiosity et Perseverance. Sauf que dans des expériences en laboratoire, les chercheurs ont reproduit des conditions martiennes et ont soumis des acides aminés à un rayonnement gamma ionisant pour imiter le rayonnement cosmique à la surface de Mars. Selon leurs résultats, les rayons cosmiques détruisent très rapidement ces molécules. Seuls des acides aminés enfouis à 2 mètres pourraient être préservés. Or, les actuelles missions ne font des forages que de 5 cm de profondeur.
Selon une étude parue hier dans PNAS, à nouveau, le changement climatique modifie le calendrier des cycles biologiques des lycaons.
Et une équipe américaine a étudié les données démographiques de ce chien sauvage d'Afrique, ou chien hyène, de 60 meutes au Botswana, entre 1989 et 2020. Et ils ont comparé ces données à un modèle climatique. Les chercheurs montrent qu'il y a une corrélation étroite entre la hausse des températures et la période des naissances. Avec une augmentation de 3,8 degrés en 30 ans, Ces animaux mettent bas plus tard. Les naissances qui avaient habituellement lieu en mai se déroulent à présent en juin pour concorder avec des températures plus fraîches. Mais cela a également affecté les taux de survie des chiots, alors que cette espèce est déjà menacée de disparition.
Et enfin, selon une étude parue dans BMC Biology, notre cerveau partage des points communs avec celui des pieuvres.
Une équipe internationale vient de découvrir des similitudes moléculaires entre notre cerveau et celui de deux espèces de pieuvres. Par séquençage génomique, les chercheurs ont découvert dans le lobe vertical de ces animaux, la zone responsable de l'apprentissage et des capacités cognitives, ils ont découvert des transposons qui appartiennent à la famille Lynn. Ces transposons, ce sont des gènes sauteurs, comme des petits morceaux d'ADN capables de sauter d'un endroit à un autre, actifs dans l'hippocampe, qui sont liés à l'apprentissage et à la mémoire, et que l'on considérait comme spécifique au cerveau humain. Cette analogie moléculaire pourrait peut-être expliquer la remarquable intelligence de ces invertébrés.